c'est assez sain de se rendre compte des difficultés. Il ne faut pas penser qu'au premier problème, les choses sont finies.
Le secret, c'est de conserver sa part de liberté.
Quand vous vivez tout le temps dans l'avenir, vous passez en grande partie à côté de la vraie vie.
La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 2 de Secrets de dirigeants. Elle aurait pu être une femme des années 80 chantée par Michel Sardou. Première à être à la tête d'un commissariat parisien, première à diriger la brigade des stupes, la brigade de répression du banditisme, la crime et le prestigieux 36 Quai des Orfèvres, avant de quitter le terrain, à regret, pour la direction centrale de la police judiciaire et de finir préfète. Une carrière entière au service de la lutte contre le crime qui fait d'elle une légende. Elle a perquisitionné chez Françoise Sagan, côtoyé Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg. Avec ses équipes, elle a arrêté Guy Georges, coffré Madame Claude et enquêté sur l'attentat de Port-Royal. Des affaires qui lui ont donné une visibilité médiatique à une époque où le slogan pour les campagnes de recrutement était « La police, un métier d'homme ». C'est d'ailleurs son père, membre de la mythique section anti-gang, qui lui a donné le virus. Une visibilité qui est devenue mondiale lorsqu'elle est appelée le 31 août 1997 pour un accident sous le pont de l'Alma.
Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé.
On m'appelle en tant que patron de la brigade criminelle parce que les autorités, les premières autorités qui ont été informées de ce supposé accident, parce qu'au départ, au fond, on a assez peu d'éléments, même si on présume quand même très vite que ce sera un accident, que c'est un accident, on m'appelle parce qu'on a conscience quand même que, égard aux personnalités qui sont en cause dans cet accident, ça va avoir un impact planétaire, que ça va être une affaire qui va être suivie voilà, exactement, et qu'il faut un travail remarquable, très profond, qu'il faut donc une force de frappe, d'enquête, et la brigade criminelle est adaptée à ça. C'est une des choses que j'ai dites à mes équipes quand elles sont arrivées sur place aussi, en disant, mais enfin, bon, parce qu'évidemment, rapidement, on a compris quand même que ça sentait l'accident, quand même. Alors, il ne faut jamais préjuger des choses. Bien sûr que nos investigations l'ont démontré beaucoup plus tard, mais on sentait quand même que ça ressemblait bien à un accident. Et me dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Bon, voilà, je leur ai dit, écoutez, ouais, c'est ce que j'ai appelé, moi, le syndrome Marilyn Monroe. C'est-à-dire que quand une enquête n'est pas totalement aboutie, s'il reste quelques petites zones d'ombre, il y aura toujours une place au fantasme, des petites suspicions de ceci ou ça. Alors vous me direz que même avec quelque chose qui a été fait vraiment de façon très très approfondie, il y a encore des années et des années après, toujours des journaux qui vont dire oui, mais finalement, est-ce que nanana nanana. Ils ont quand même beaucoup de mal à le faire parce que ces personnes qui avancent ces suppositions ne démontrent rien, ne mettent en cause rien parce que l'enquête a tout vissé, si vous voulez. Et ça, c'était mon challenge, je l'avais dit. J'avais dit, bon, à y être de faire une enquête d'accident, ce qui est effectivement pas notre rôle, autant faire les choses de façon tout à fait remarquable. Et c'est ce qu'on a fait. On a été félicité d'ailleurs par l'ambassade d'Angleterre. Les Anglais se sont presque excusés de refaire l'enquête derrière nous, mais
vous avez besoin pour leur opinion publique également de faire cette enquête.
Bien sûr, et le responsable qui s'était déplacé à l'époque se confondait presque effectivement en excuse, en disant voilà, il faut qu'on le revienne. Mais j'ai très très bien compris. Au contraire, j'ai dit refaites bien comme nous. Si vous trouvez quelque chose, bah écoutez, parfait. En fait, ils ont rien trouvé. Ils ont bien sûr constaté qu'on avait travaillé d'une façon très très rigoureuse, très aboutie, quoi. Bon, voilà.
Vous arrivez combien de temps après l'accident ?
Assez peu de temps, hein, parce qu'en plus, la nuit, ça circule bien. Lady Di était dans l'ambulance, en phase de départ vers la salle pétrière. Évidemment, le Trevor Rich Jones était pris en charge par
Le garde du corps de Lady Di.
C'était le garde du corps de Lady Di.
C'est le seul qui a survécu.
Lui, il a tout de suite été embarqué très très vite. Ils y allaient très très doucement. Et puis, moi, j'ai resté deux cadavres, hein, c'est-à-dire le chauffeur, M. Paul, et puis le compagnon de Lady Di, M. Dodi Al-Fayed, quoi.
Quelle est l'ambiance dans le tunnel de l'Alma à ce moment-là?
Les photographes qui étaient autour de la voiture, mais pas dans une si grande proximité, ils étaient derrière. Donc, il y avait une pression. Ils étaient derrière. Hein. Ils ont fini par savoir. Il y a toujours quelqu'un qui est à l'arrière des hôtels, etc., pour voir quand il y a des personnalités comme ça.
Oui, je crois que là, il y avait deux photographes qui avaient fait le pari de s'installer à l'arrière du Ritz.
Voilà, il y en a d'autres, évidemment. Ils ont passé le relais à des... L'info a certainement des copains. Enfin bref, ça s'est su et d'autres sont arrivés. Mais ils n'étaient pas à proximité immédiate. Ils suivaient, mais Paul a accéléré, c'est sûr. Le chauffeur a accéléré. L'arrivée dans ce tunnel, bon, c'est là que ça a été fatal. Avec l'arrivée, si vous voulez, par le cours Albert Ier.
Enfin, on arrive de cours
de la Reine. On est cours de la Reine.
C'est tout droit. Ça descend un peu.
Ça descend un peu.
Et ça prend un petit peu sur la droite.
Il y a un petit peu de virage. Un léger virage, et si vous voulez, ce qui fait que ceux qui arrivent, effectivement, vous voyez, on est sur un léger dévers, si je puis dire. Et donc, il a dû se faire surprendre par l'arrivée de cette petite Fiat Uno, d'évidence. C'est comme ça qu'ils se sont frottés, parce que ce n'est pas un grave accident, sinon d'ailleurs, il aurait vraiment embouti. Hein. Mais ils se sont frottés, l'autre a dû se prendre une peur panique, et puis
il est parti.
Et lui, par cette espèce de réflexe qu'il a eu, il a donné un coup de volant, on l'a très bien vu tout de suite d'ailleurs, hein, ça, le pneu. De la Mercedes a laissé beaucoup de noir sur le rebord du trottoir, là où il y a les fameux piliers. Et c'est comme ça qu'ensuite il est parti en vrille, quoi. Bon, complètement, jusqu'au 13e pilier, quoi.
Quand on arrive sur place, on comprend tout de suite que c'est quelque chose d'historique ?
Oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai compris que ce serait une affaire. Médiatisé, c'est peut-être ce qui moi me contrariait le plus, parce que quand on a comme ça une espèce d'emprise médiatique très très forte sur un événement, faut pas être dérangé, faut pas être gêné. Or, vous supposez, et ça s'avère un peu vrai toujours, c'est-à-dire que la hiérarchie aussi va tenter de savoir, etc., etc.
Et ça, il va y avoir beaucoup d'interférences.
Et ça vient de très haut, ça a beaucoup d'interférences. Tout le monde va suivre l'affaire, absolument pas à pas et tout. Donc voilà. Et moi d'ailleurs, j'ai très rapidement dit à mon directeur. Surtout au niveau des médias, tu bloques, qui est quelqu'un à la direction et à la préfecture de police qui s'assure de donner quelques éléments aux médias, puisque moi je faisais régulièrement une note, si vous voulez, de la façon dont l'enquête était conduite et des éléments que nous avions à disposition, si vous voulez. Hein,
en
voilà.
plus, vous étiez déjà très médiatique, et donc les journalistes vous connaissaient, ils vous identifient très vite.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est difficile aussi, quelles que soient de toute façon les circonstances, que ce soit un accident, un viol, un meurtre? On rencontre les familles, vous rencontrez les familles à un moment donné. Là, dans cet accident, vous n'avez probablement pas rencontré les familles.
Non.
Il y a
non.
une difficulté aussi là-dessus.
Oui, bien sûr. Mais bon, on n'avait pas le temps. Je dois reconnaître que c'est notre hiérarchie, le préfet de police, etc., le directeur, qui ont rencontré une partie de la famille. Mais nous, on avait déjà les mains dans le cambouis, si je puis dire assez grossièrement, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment d'autre temps, d'autant que moi, sachant...
C'était une époque déjà chargée.
D'abord, c'est ça. On était dans un contexte où on avait quand même un attentat Port-Royal, qui était quand même de décembre 96. Donc on avait dans de très lourdes enquêtes, plus qui George, enfin on avait quand même des dossiers énormes. Ce qui fait que j'avais dit à mes collaborateurs, bon allez, on va y aller très fort, très vite, on met le paquet. Bien, sérieusement, rigoureusement, mais enfin, on ne traîne pas. Donc j'avais d'ailleurs un peu divisé, comme j'aimais le faire, si vous voulez, en sorte d'atelier. C'est-à-dire j'avais consacré quelqu'un à la Mercedes, j'avais consacré quelqu'un à M. Paul, parce qu'en tant que chauffeur, je me doutais bien qu'on chercherait à savoir plein de choses sur lui. Voilà, vous voyez, j'avais fait...
Vous aviez combien de personnes dans l'équipe ?
Ah ben là, j'avais mis... Il y a le groupe leader, qui est le groupe qui est saisi, qui était de permanence ce jour-là, et je lui avais mis quatre groupes derrière.
Ça fait combien de personnes ?
Ça faisait 35 personnes, quoi.
C'est énorme,
oui. Oui, mais au départ de l'enquête, c'était nécessaire. Je voulais que ça parte tous azimuts, qu'on fait des témoins. Il y a eu énormément de choses. Il a fallu faire toute la téléphonie, si vous voulez, sur le site, pour voir s'il y a eu quelque chose, un échange téléphonique qui aurait pu être intéressant. tout un voisinage, malgré l'heure, on ne sait jamais. La preuve, on a trouvé quand même quelques témoins, on a réussi à en récupérer quelques-uns. Ils ne vous donnent pas forcément des choses extraordinaires, mais des petits indices, quelquefois, qui peuvent être très utiles. Donc, il ne faut rien négliger.
Sur une piste.
Voilà, c'est très lourd. Donc, il faut du monde, et surtout au départ, et puis après, petit à petit, ça se resserre et in fine, c'est le groupe seul qui a terminé. Mais je lui ai laissé quand même des renforts assez longuement, le temps de bien sortir un maximum de choses.
Le 3 décembre 1996, vous êtes appelé cette fois-ci sur l'attentat à Port-Royal. C'est, y a eu déjà quelques attentats à Paris à cette époque-là. Là, c'est un attentat qui a lieu. Le RER de Port-Royal, il a une particularité, c'est qu'il y a une partie qui est souterraine et une partie qui est aérienne. Et lorsque vous arrivez... Vous avez déjà vécu beaucoup de choses, mais je crois que cette affaire-là vous a marqué particulièrement.
Ces affaires de terrorisme sont très fortes parce qu'elles vous renvoient à des scènes de guerre, des scènes de chaos. Quoi.
Cette époque particulièrement-là.
Oui, moi quand je suis rentrée dans la rame, bon, on savait déjà ce que c'était. Hein, donc, mais c'est même si on est blindé, entre guillemets, face à ce type d'événement, bon, c'est toujours, toujours quand même assez prenant, assez émouvant ce que vous voyez, quoi, parce que ce sont des corps déchiquetés, c'est vraiment quelque chose de terrible, quoi, de terrible. Donc, pour autant, il faut garder son sang-froid, mais c'est tout, c'est ce qu'on fait tous, hein, c'est-à-dire que, bon, passer la première vue, l'horreur, avec des corps déchiquetés, il faut continuer. Très vite, d'ailleurs, votre but, c'est de trouver des éléments, vous voyez, c'est-à-dire que la notion d'enquête l'emporte, si je puis dire, sur l'émotionnel, et vous vous dites, bon, il faut absolument trouver le salopard qui a fait ça. Donc ça motive, vous voyez, ça
oui, la rage peut être un moteur important.
C'est un moteur important. Vous avez de l'adrénaline, là, vous vous dites, c'est pas possible, quelle horreur, quoi. Bon, ça a recommencé, il faut trouver, il faut y aller, donc ça booste les équipes.
J'imagine que ce sont des images qui marquent à vie. Comment on fait pour vivre avec ces images ?
Nous, ça nous donne une certaine lucidité hein, sur la nature humaine, c'est-à-dire qu'il y a...
Ça rend misanthrope, alors ?
Comment ?
Ça rend misanthrope ?
Non, quand même pas à ce point, mais enfin, ça rend lucide. Dirons-nous, c'est-à-dire savoir que la nature humaine est ce qu'elle est. Dieu merci, la majorité des personnes sont des personnes normales.
Sans histoire.
Mais nous, ça nous permet d'avoir toujours à l'esprit que oui, il peut y avoir des salopards dangereux. Et il y en a. Et donc, on est peut-être un tout petit peu plus aux aguets, un peu plus dans le doute, un peu plus dans la suspicion que d'autres, tout simplement parce qu'on a été confronté à tout cela, si vous voulez. Oui.
L'attentat de Port-Royal, on n'a jamais identifié, retrouvé et jugé les coupables. J'imagine que ça reste comme un regret, c'est quelque chose que l'on porte aussi ?
Alors oui, on a eu des pistes quand même, si vous voulez.
Vous avez...
Oui, voilà, c'était pas totalement négatif. La seule chose, c'est qu'évidemment, vous savez, les voyous, comme les terroristes, c'est pareil. C'est-à-dire que ils connaissent un peu notre façon de travailler, nos progressions, etc. Et quand on est arrivé sur certaines pistes, bon, ils ont un peu disparu dans la nature et on est arrivé vers des pays où il était assez difficile
d'avoir de la coopération.
Voilà, d'avoir de la coopération.
Est-ce que ça fait partie du métier de se dire que jamais on ne retrouve le coupable ?
Oui, hélas, ce sont les affaires qui sont peut-être pour nous les plus marquantes. Parce qu'il y a une sorte de frustration.
D'injustice ?
Oui, et injustice pour les victimes et pour nous, bien sûr, mais et aussi une frustration parce que par rapport au travail qui a été investi, si vous voulez, qui est énorme. C'est-à-dire que, c'est... pas imaginable, hein, des milliers de procès-verbaux, des coups de téléphonique, un travail considérable. Et avec, évidemment, une sensation de pas tout à fait fini, quoi.
Votre époux travaillait également dans la police, votre papa aussi. Ces affaires-là, on vit plusieurs mois avec. Est-ce que vous en discutiez avec eux ? Est-ce que c'était important de pouvoir avoir des interlocuteurs qui connaissaient ce que vous connaissiez, mais sans être dans votre groupe ?
On en parle un petit peu. Mais enfin, il ne faut pas non plus en faire un sujet central. Il faut pouvoir aussi un peu décompresser. Même si je peux pouvais l'avoir en tête, moi. Vous voyez, il m'arrivait d'y réfléchir, etc. Mais il faut essayer, notamment quand on a des amis, sont tentés, alors, etc., racontent, ou des choses comme ça. Bon, oui. Bon, moi, j'essayais un petit peu de me déconnecter, comme d'autres. Il faut pouvoir aussi revenir un peu à la vie normale. Vous ne pouvez pas rester obsédé. Vous avez ça, ça reste en vous. Ça fait partie du métier, des images qui resteront. Vous vivez avec, ça s'appelle l'équilibre.
Pendant très longtemps, vous avez fait du terrain. Ça, c'est la partie de votre carrière qui vous a, je pense, le plus amusé, en tout cas, qui était la plus exaltante. Comment ça se passe physiquement sur le terrain? Est-ce que des fois, on a peur?
Oui, si vous voulez, l'avantage de la police judiciaire, c'est un métier d'investigation qui vous fait travailler longtemps en amont, éventuellement sur des objectifs. Ce qui fait que le jour J, au moment où vous décidez d'intervenir sur des gros trafiquants, sur un criminel ou sur autre chose, si vous voulez, en fait, lui ne sait pas.
Oui,
vous avez l'avantage de la surprise.
Et
ça fait des mois, des semaines, voire des mois que vous êtes derrière. Tant qu'il ne le sait pas, Dieu merci, c'est qu'il ne vous a pas mordu et repéré, donc parfait. Et vous, quand vous arrivez, il y a cet effet de surprise. Pendant une fraction de seconde, même les plus tordus et les plus dangereux des voyous, il faut profiter de cet effet de surprise pour immédiatement neutraliser. Donc vous voyez, vous savez quand même que vous avez ce petit temps d'avance qui est quand même très précieux. Vous savez évaluer le nombre, parce que justement, de par la préparation de l'enquête, vous savez si vous allez arrêter une personne, deux, trois ou cinq ou dix. Vous voyez, et là, vous préparez un dispositif susceptible de répondre en fonction du nombre de vos objectifs. Vous voyez, tout ça se prépare. C'est un petit peu différent des collègues qui, eux, vont sur des objectifs dont ils ne savent à peu près rien. Voyez, ce qui quelquefois d'ailleurs peut être plus dangereux, donc et nécessite de leur part une certaine prudence au moment des interventions. Bon, nous aussi, hein, parce que hélas, il y a eu quelquefois des revers. Hein. Mais enfin, globalement, on prépare et on surprend.
Vous avez souvent utilisé votre arme de service?
Non, pour braquer,
pour
obliger quelqu'un à mettre en joue, à mettre les mains en l'air, etc. Oui. Maintenant, de tir, non. Justement, du fait de cette préparation. C'est-à-dire que il n'y a pas tellement d'utilité, parce qu'il y a cet effet de surprise. Si vous neutralisez vos objectifs immédiatement, bon, bah voilà, c'est terminé, quoi. Voilà.
Quel rapport à la mort ça donne, du coup?
Ça fait partie de notre vie, au fil des enquêtes, si vous voulez. Je parle surtout des enquêtes criminelles. Ou même, d'ailleurs, des enquêtes, vous êtes dans un commissariat, bah, vous avez des enquêtes d'essai, c'est des enquêtes d'un autre genre, mais vous êtes toujours confronté à la mort, vous voyez? C'est-à-dire que, dans ce métier, vous êtes assez rapidement confronté à la mort. Bon, elle existe pour tout le monde. Alors, évidemment, les morts auxquelles nous sommes confrontés sont des morts, certes, naturelles, quand il s'agit des enquêtes d'essai de personnes souvent âgées, qui ont été plutôt délaissées, vous voyez, qui sont mortes un peu toutes seules, dans des circonstances assez tristes, d'ailleurs. Assez tristes, vous voyez. Celles-là font vraiment réfléchir. Les autres, ce sont des morts violentes. C'est encore un autre sujet, c'est-à-dire ces morts violentes, elle génère la même tristesse quand vous arrivez, que vous voyez une belle jeune femme égorgée, vous vous dites quand même, c'est terrible, elle avait toute la vie devant elle. Mais donc, ça vous renvoie à autre chose, ça vous renvoie au salopard, vous voyez, qui a pu faire ça. Vous voyez, c'est-à-dire que le cadavre, pour nous, devient une sorte de... J'aime pas tellement utiliser ce terme, mais nous, on disait toujours, on objective le cadavre. C'est-à-dire que le cadavre, c'est la première pièce à conviction dans une affaire criminelle, c'est-à-dire, c'était notre façon de nous exprimer, on fait parler le cadavre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du cadavre, on va peut-être pouvoir tirer un fil qui va nous permettre de mener l'enquête, si vous voulez. Voyez, parce que un cadavre, c'est une vie derrière, plus ou moins courte, mais c'est une vie quand même qui peut-être va nous renvoyer ou à des témoins intéressants ou peut-être
un
suspect sur certaines pistes. Donc c'est quand même à partir de là que commence l'enquête. Nous, la relation à la mort, elle est fréquente, elle est triste, il y a toujours ce côté humain qui intervient, mais immédiatement aussi, elle est l'objet, encore une fois, avec des guillemets, à partir duquel on va essayer de trouver le coupable.
Guy-Georges, c'est une affaire importante, c'est un point de bascule. C'est un moment où on découvre un peu des serial killers en France, à la fois parce que grâce à ce qui est les prémices de la police scientifique, vous arrivez à l'identifier. dossier, aussi parce que vous n'êtes pas sur le début de l'affaire, et que c'est une affaire médiatique et qui a beaucoup fait trembler. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, dans cette affaire, qui vous a ensuite servi ailleurs et qui, aujourd'hui, sert encore dans la police ?
Dans une grosse brigade comme la brigade criminelle, elle est divisée en groupes d'enquête, hein, donc avec une section antiterroriste et puis des sections, une section de droit commun. Tous les groupes d'enquête, donc ça fait beaucoup de monde, sont en charge de dossiers au fil des permanences, si vous voulez, voilà. Et il y a plusieurs groupes qui ont été saisis au fil des années, puisque l'affaire Guy Georges s'étale de 91 à 98. Et je pense que s'il fallait que j'insiste encore, et j'ai beaucoup insisté quand je suis arrivée à la brigade criminelle, c'est surtout que tout le monde se parle.
Qu'il n'y ait pas de guerre des services.
Voilà. C'est pas de guerre des services.
Mais qu'on cache des choses.
Ils sont dans le même service, mais entre groupes, simplement un cloisonnement qui est un cloisonnement d'une vie en commun. On a une vie en commun, on est sur notre dossier, on est sur notre affaire. En fait, on a le nez dans le guidon. Donc, c'est à nous, les chefs de service, adjoints, chefs de section, etc., de dire, attention les gars, cette affaire, voilà, à côté, ça y ressemble tellement, etc. Donc, on se parle, vous voyez. Et moi, d'ailleurs, ça a toujours été quelque chose que j'ai eu à cœur dans les services, qui n'est pas de cloisonnement. Voilà. En fait, vous êtes un seul service, c'est un pour tous, tous pour un. Voilà. Il fallait qu'ils se parlent, parce qu'au fond, quelque part, ils font le même métier, on a les mêmes objectifs et surtout, on est la même brigade. Donc, on sert les mêmes intérêts d'avoir de bons résultats, etc., etc. Donc, il faut mettre nos dossiers en commun. Ce qui fait que moi, très naturellement, sincèrement, quand je suis arrivée à la brigade criminelle, j'ai dit, bon, cette affaire-là, puisque moi, quand j'arrive, il y en a déjà eu. Il y en a qu'une que j'ai vécue directement sur place, c'est l'affaire Nitschkampf, parce que j'étais patron de la brigade de répression du banditisme, mais j'étais de permanence pour les grandes brigades centrales. Donc, je me suis retrouvée chef de la criminelle par intérim, et donc j'étais sur cette affaire dont je connaissais rien, si vous voulez. Je connaissais pas les autres dossiers, puisque... Bon, moi,
c'était pas vos dossiers.
Moi, j'étais dans le grand banditisme, j'étais pas à la crime. Mais donc j'arrive, donc je prends les autres dossiers plus l'affaire Nitschkampf. Mais surtout, je rassemble les chefs de groupe qui sont tous saisis de dossiers qui se ressemblent, voyez, et dont on peut quand même très légitimement penser que c'est un point commun. D'ailleurs, eux-mêmes, ça y est, ça a commencé à se rapprocher sur les dernières affaires, notamment. Bon, il y avait une signature de Guy Georges, donc ne pas y penser eût été dramatique. Donc,
et à un moment donné, il y a une surprise d'ailleurs, parce qu'en fait, le Guy Georges en question, il est déjà passé par les services.
Mais c'est bien pour ça, si vous voulez, que moi, je comprends ce qui s'est passé. Donc, en 95, et l'analyse que je fais de ce qui s'est passé à ce moment-là m'incite encore plus, vous voulez, à... Bon, déjà, c'est ma nature, hein, c'est-à-dire que j'aime bien faire fonctionner les gens un peu, que tout le monde sache un peu qui fait quoi. Mais alors là, a fortiori, si vous voulez, hein, ça a été, évidemment, ça a servi ma façon de travailler. À leur décharge, quand ils passent, ce qui est terrible, c'est que d'abord, ils se laissent prélever. Donc, en général, les gens qui ont des choses à se reprocher ne se laissent pas prélever pour l'ADN, si vous voulez, prélèvement de salive. Ils se laissent prélever. Bon. Et surtout, pas d'empreinte digitale correspondante. ADN, on n'en a pas, puisque ça n'existe pas.
Il n'y a pas de fichier.
Et puis, surtout, le témoin, la fille qui a échappé.
Il y a une jeune femme qui a échappé à Guy Georges,
voilà.
Qui participe aux enquêtes, qui vous aide,
qui nous aide,
patrouille avec vous pour
Essayer
de le retrouver.
Et cette jeune femme, eh bien, elle ne le reconnaît pas. Tout un tas d'éléments qui, à cette époque-là,
ça n'excuse pas tout,
mais disons que ça explique aussi pourquoi ils se sont laissés aller en disant « bon, ah, c'est pas le bon, puisqu'il n'y a pas tout ça ». Vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui, malheureusement, ont desservi le dossier.
Lorsqu'on arrête des gens comme Guy Georges, je pense ensuite à Fourniret, à tout un tas de gens qui ont eu des méthodes qu'ils ont reproduites. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de gens. Il y a ceux comme Fourniret qui ne parlent jamais, et ceux qui ont un vrai plaisir à raconter ce qu'ils ont fait.
Oui, enfin, Guy Georges, il n'a pas pris son plaisir tout de suite, hein, si je puis dire, parce que quand il a été amené donc, devant le juge d'instruction, puisque nous avions un mandat d'amener, il n'a rien dit, il a été absolument rebelle et presque arrogant devant le magistrat, que ça a beaucoup agacé à juste titre. Et quand il m'a téléphoné, vraiment, on sent qu'il nous l'a confié avec plaisir, quoi, parce que vraiment, il était fatigué et agacé. Et donc, et nous, évidemment, hein, il s'est pas assis à table en disant, bah, écoutez, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Et non, ça n'a pas été facile. Pour arriver à faire parler quelqu'un dont on a la conviction que c'est lui, parce qu'en plus, bon, bah là, on avait vraiment des éléments et tout, et l'ADN, pour le coup, avait matché. Il faut trouver un peu les personnes avec lesquelles ça va accrocher, ça va faire tilt, il va passer quelque chose, vous voyez, il faut, bon, voilà. Par exemple, quand on a des terroristes islamistes, c'est pas franchement une femme qu'il faut mettre en face, vous voyez, enfin bref, il y a quand même des béabas. Encore que, moi j'ai vu certaines femmes quand même procéder à des interrogatoires avec des terroristes d'une façon très solide. Mais enfin, ça c'est un autre débat. Disons qu'a priori, c'est pas ça qu'on
comprend. Naturellement comme ça qu'on
affiche. Naturellement. Donc là, il fallait trouver. Donc, et puis, bon, ben voilà, c'est dans la conversation, on se rend compte que en parlant d'abord de choses banales, c'est-à-dire, ben tiens, t'aimes le foot, ou des, vous voyez, on peut partir sur des sujets, je dis ça parce que Mamadou Traoré, lui, ça a été le truc qui a fait, qui a un autre serial killer, qui a été déclencheur, ça, t'aimes le foot, alors là, les yeux qui brillaient, tout ça, et à partir de là, il y a eu ce feeling entre cet enquêteur, et puis bon, de fil en aiguille, ils sont revenus aux choses sérieuse. Bah là, c'est pareil, jusqu'à ce qu'il y ait une façon de parler, de dire, allez, bon, il faut en parler, de toute façon, au contraire, si tu parles, si t'expliques, on peut peut-être comprendre les choses, ça peut s'expliquer, on a des techniques, on va jusque quelquefois à dire, peut-être qu'au fond, la victime, elle a sa part de responsabilité, vous voyez, bon, je tiens beaucoup aux aveux, la culture de l'aveu, depuis qu'on a l'ADN, on a tendance à dire, oh, bon, c'est pas utile, puisque de toute façon, on a l'ADN. Alors, c'est vrai que dans cette affaire, vu qu'on a quand même pas mal
de matériel,
on se dit, bon, bah, après tout, voilà.
On a suffisamment de preuves,
laisse tomber. Je suis pas pour, parce qu'à partir du moment où vous avez les aveux, il faut le laisser parler. Parce que souvent, c'est vrai, je crois que c'est ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire, quand vous arrivez à déclencher le tueur, après, il parle de lui, en fait. Et il parle de ce qu'il fait. Et c'est ce qui s'est exactement produit, comme ça s'est produit avec d'autres. Une fois qu'on a la clé, ça part. Et moi, j'aime bien qu'il raconte, qu'il décrive même les lieux et tout. C'est-à-dire tout un tas de choses qu'il ne peut pas inventer. Et il vous raconte exactement ce qu'il a fait. Ça, c'est la première chose. Donc, ça constitue une forme de preuve. Puisque si un avocat dit, oui, mais enfin, l'ADN, c'est pas finalement nanana, nanana, leur baratin. Parce qu'on sait très bien que... Mais là, attendez, il n'y a pas que l'ADN. Comment ça se fait? Il vous décrit comment était l'appartement d'un tel, d'une telle. Elle était en duplex avec ceci, avec cela. Il vous raconte la cigarette, il vous dit la marque de la cigarette qu'il a fumée avec la fille et tout. Enfin bon. Donc en fait, c'est très important, je pense, de faire donner du détail. Et deuxièmement, je pense que c'est très important qu'on ait le cheminement de l'action criminelle. Si vous voulez, ça peut servir aussi aux psy.
Même pour vos réflexions pour les prochaines affaires.
Enfin, mais oui, voilà, même pour nous, c'est utile. Parce que moi, vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé avec Guy Georges. Ça fait froid dans le dos parce que le type vous raconte vraiment comment ça se déclenche. Et il le dit, c'est dans les PV, c'est-à-dire je la suis et je sais que je vais la tuer. C'est fort ça, non ? C'est incroyable. Donc, je trouve que ce cheminement, il est quand même vraiment très, très intéressant.
Si le parcours de Martine Monteil est hors norme, c'est aussi parce que c'est une femme au caractère peu ordinaire, qui sait beaucoup de choses sur les ressorts de l'âme humaine. C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de Secrets de dirigeants.